Voilà, on va pouvoir commencer. Je me présente brièvement. Tout d'abord, bonsoir à tous. Merci d'être là. Je m'appelle Vincent Costet. Je travaille comme journaliste pour les médias locaux. Et c'est donc moi qui vais modérer la discussion ce soir avec donc le titre de ce café scientifique, Surpoids, le marketing dans la balance. Un chiffre tout d'abord, en Suisse, plus de 2 personnes sur 5 sont en surpoids. Alors, problème de société importé des États-Unis, mais qui touche probablement tous les pays riches. Alors, c'est un résumé. On aura l'occasion, évidemment, d'affiner cette vision ce soir. Et quelques questions. Est-ce que la lutte ici en Suisse contre ce phénomène, elle est assez vigoureuse? Est-ce qu'elle est efficace? Comment l'améliorer, peut-être? C'est des questions auxquelles on va tenter de répondre ce soir, plus spécifiquement peut-être sous l'angle du marketing, comme le veut l'intitulé de ce café scientifique de ce soir. C'est-à-dire comment le marketing peut être à la fois cause du surpoids et éventuellement solution pour y remédier. Vous voyez, je ne suis pas venu tout seul. Hein. La lutte contre la problématique est bien engagée. Voilà. Donc les intervenants, j'aimerais d'abord commencer par présenter et remercier celui qui a fourni un très grand travail ce soir préparatoire en vue de cette soirée, le professeur de marketing ici à l'Université de Neuchâtel, Valérie Besançon. Voilà, donc il va falloir prendre les micros pour prendre la parole tout à l'heure. Il y a également Barbara Feniger, qui est responsable alimentation à la Fédération romande des consommateurs. Bonsoir.
Bonsoir. Juste un petit mot, je vous ai apporté de faire ses mieux choisir si jamais vous vous servir.
Voilà, commence par faire sa pub, c'est très bien. Lisiane Hummel-Mariani, qui est déléguée à la promotion de la santé au service de la santé publique du canton de Neuchâtel. Bonsoir. Également un collaborateur de l'OFSP, l'Office fédéral de la santé publique, donc Alberto Marcacci. Bonsoir. Vous êtes chef de la section nutrition et activité physique, responsable du bureau Action Santé du programme national alimentation et activité physique. Est-ce que j'ai été complet et exact? Très bien. Voilà. Et puis Prune Meucli également. Bonsoir. Vous êtes fondatrice et coprésidente, je crois, du concours Miss Ronde Suisse Romande. Voilà. Donc, je ne vais pas forcément faire un tour de table, on va attaquer directement la problématique. Donc, j'encourage évidemment les intervenants à m'interrompre, à lever la main, à me faire signe si vous avez envie de réagir aux propos de l'un ou l'autre de vos collègues ici à la table. Et puis, évidemment, le public, vous pourrez réagir plutôt en seconde partie d'émission si vous avez des questions. Il faut pas, c'est pas une émission, enfin, quoique même il y a Canal Alpha qui est présent ce soir, on peut les saluer, donc il y aura quelque chose dans les médias locaux. Très bien, alors Valérie Besançon, première question, vous avez cherché à inviter des représentants du secteur privé, qu'est-ce qu'ils vous ont répondu? Prenez le micro.
Un petit peu difficile apparemment pour ce type de thématique, hein. D'avoir les acteurs du secteur privé. Alors bon, il y a eu diverses réponses, mais je pense qu'ils étaient, pour certains, intéressés. Après, ils ne voulaient pas nécessairement être les seuls sur le panel à être, en guillemets, dans le côté plutôt des méchants. Et donc, c'était un peu soit à plusieurs, mais pas seul, pour pouvoir se défendre en groupe et apporter aussi des solutions en groupe. Donc c'est un peu difficile de les convaincre en fait de venir ici ce soir, mais c'est un dialogue et je pense que c'est pas du tout. À une autre occasion, ce sera certainement possible de les convaincre de venir.
Est-ce que certains vous ont pas répondu du tout?
Certains, oui.
Vous vous donnerez pas de nom, c'est ça? Bien. Première vraie question maintenant. Est-ce qu'un des experts ici présents sait, chiffre à l'appui peut-être, si vraiment le marketing, c'est le grand méchant loup, la cause principale du surpoids dans les pays riches? Ou bien est-ce que ce combat contre ce problème n'en est pas encore à ce stade-là? Ou simplement, ce n'est pas une réalité qui est chiffrable aujourd'hui? Qui veut intervenir? Visiblement, peut-être Valérie Besançon?
Je pense que c'est impossible à chiffrer, à quantifier la part dans l'excès de poids. C'est extrêmement difficile et je pense qu'aucune étude, aucun modèle ne pourrait le faire.
Alors, Alberto Marcacci, justement, peut-être déjà un éclairage sur le plan international, ou alors carrément parlons déjà de la Suisse, 2 Suisses sur 5 en surpoids, même plus. Là aussi, est-ce qu'on peut identifier, disons, l'origine du mal, et puis surtout le coût de la santé que ça représente aussi en Suisse?
L'origine du mal, c'est, vous savez, l'obésité, c'est un problème extrêmement complexe. Enfin, il est très simple à la fois et très complexe. Il est simple si on le voit du point de vue physiologique. C'est une question d'équilibre énergétique. C'est l'apport calorique avec la dépense. Mais si on le regarde de l'aspect sociétal, psychologique, il est extrêmement complexe avec une multitude de facteurs, une multitude de déterminants, l'environnement, les conditions, les contextes de vie, l'éducation, l'expérience vis-à-vis de la nourriture qui influence aussi notre choix. Donc il y a beaucoup de déterminants et pouvoir chiffrer le poids de chaque déterminant, c'est extrêmement difficile. Par rapport à la publicité, je viens de recevoir un rapport de la Commission européenne. C'est des workshops qu'on organise dans le cadre de la mission suisse et qui a traité justement ce type de sujet. Et il y a eu une présentation des différentes interventions. Donc ça va de la réglementation, donc interdire la publicité avec une loi, avec des accords aussi volontaires avec l'économie. Ce qu'on peut montrer, c'est pas le poids total de la publicité, mais ce qu'on peut montrer, c'est qu'en diminuant la publicité, on arrive à avoir un impact sur le comportement qui est chiffré autour du 20%, d'après justement ce rapport. Donc on voit bien qu'en travaillant sur la publicité, on arrive aussi à changer le comportement. Maintenant, il y a différentes méthodes et techniques que voilà, peut-être on pourra en discuter plus tard.
Tout à l'heure, effectivement. Lisiane Oumel-Mariani, est-ce que Neuchâtel est un canton en surpoids? Mais là, je ne parle pas de l'appareil administratif.
Je voulais un petit peu élargir en disant évidemment que le surpoids, c'est une réalité dans le canton de Neuchâtel comme dans le reste de la Suisse. Donc c'est quelque chose qui nous importe et sur lequel on essaie de travailler. Mais dans le plan directeur du canton de Neuchâtel qui donne les priorités pour la promotion de la santé, on parle plutôt de l'alimentation et de l'activité physique parce que le poids, ce n'est qu'un des éléments par rapport à cette thématique-là. Donc je pense que c'est important aussi d'élargir un petit peu le débat puis pas de rester focalisé sur des questions de poids et sur des chiffres, mais vraiment dire, voilà, de manière générale, qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser une alimentation équilibrée et suffisamment d'activité physique avec après un impact sur le poids. Donc oui, ça fait partie de nos priorités cantonales. C'est aussi un problème de santé publique qui nous importe.
Bien et sûr. Quelles sont les actions peut-être que vous menez dans le cadre, très concrètement, dans le cadre du canton de Neuchâtel?
Ouais. Alors, le canton de Neuchâtel met en place un programme qui s'appelle justement Alimentation Activité Physique. C'est un programme complet avec différentes mesures qui est soutenu par Promotion Santé Suisse. Donc, Promotion Santé Suisse n'est pas là ce soir, mais c'est la fondation qui gère les 2,40 francs par assuré que nous payons tous pour la promotion de la santé. Et dans ce cadre, ils soutiennent les cantons pour la mise en place de programmes. Et ces programmes, il y a différents types de mesures. Donc, il y a des types de mesures, ce que nous, on va appeler de la prévention structurelle. C'est-à-dire qu'on va essayer d'influencer et d'agir sur l'environnement dans lequel les personnes vivent. Donc, c'est pas... Ça, je pense, c'est aussi un message important. La question de poids, enfin, M. Marcacci l'a dit, n'est pas une question uniquement de comportement individuel, mais vraiment d'environnement dans lequel on vit tous. Et puis, on essaie d'agir sur cet environnement pour favoriser des modes de vie sains, que ça puisse être en agissant sur le marketing, comme on va discuter ce soir, mais aussi sur l'environnement physique. Donc, par exemple, on a des projets dans les structures d'accueil pour petits-enfants où on essaie de favoriser le mouvement en agissant vraiment sur l'environnement. On a des mesures qui sont plus de mise en réseau. Donc vraiment d'essayer de faire travailler les acteurs ensemble par rapport à cette thématique. D'ailleurs, il y en a plusieurs dans la salle ce soir que je profite de remercier et de saluer. Donc vraiment aussi pour que les différents professionnels dans le canton aient un même message, parce que je crois qu'aussi en matière d'alimentation, il y a pléthore de messages, hein, que ce soit dans les médias, dans la presse, les magazines, le message de la santé publique, le message des publicitaires. Donc, c'est aussi assez difficile de s'y retrouver. Donc, on essaie d'agir là-dessus. Et on a aussi des mesures de communication. Mais c'est vrai que, voilà, c'est pas notre spécialité. On le fait peut-être de manière maladroite. On pourra en discuter ce soir. Et puis aussi, faut dire qu'on a un budget qui est... très petit, on va dire, comparé à, au budget peut-être d'autres, d'autres entreprises.
Est-ce que vous pouvez le chiffrer, ce budget, ou c'est secret ?
Non, non, ce n'est pas secret du tout, pas du tout. Alors, le budget du programme alimentation activité physique pour l'ensemble du canton, c'est de l'ordre de 300 000 francs par année pour l'ensemble des mesures.
Très bien, merci. Peut-être qu'on réagira tout à l'heure à ces propos avec Alberto Marcacci concernant la politique de santé publique. Moi, j'aimerais qu'on se concentre maintenant sur, plutôt sur le marketing, les pubs à la télévision. Et là, je m'adresse à Valérie Besançon. Comment est-ce qu'on se laisse prendre ? C'est comment la mécanique, dans le cas de la malbouffe, sur quelle ficelle est-ce qu'on tire ? Est-ce qu'on tire Valérie Besançon ?
Alors, je dirais peut-être qu'il faut premièrement différencier. On parle souvent du marketing comme potentiellement créateur de besoins. Et je pense que déjà, ça, il faut différencier ce qui est du besoin que tout le monde a et du désir. Et le marketing ne peut pas ou très difficilement créer des besoins. Il peut éventuellement diriger des désirs vers un produit ou un autre, ça très clairement, mais créer des besoins, c'est difficile. On a tous des besoins. Je prends un exemple de. Peut-être dans le milieu du tabagisme, si un adolescent commence à fumer, ce sera peut-être pour satisfaire un besoin d'appartenance, d'affiliation à un groupe, de se différencier d'autres groupes. Et donc ce besoin-là, ce n'est pas tellement le marketing qui va le créer. Par contre, la façon dont il va satisfaire ce besoin, à savoir éventuellement au travers de la fumée, ça c'est quelque chose que le marketing peut influencer. Donc ça c'est une première chose peut-être à différencier. Maintenant en termes de publicité, je pense que là on peut aussi différencier ce qui est de la création des marques et de la préférence pour des marques et ce qui est de la consommer plus. Préférence pour les marques, McDonald's par exemple, typiquement va chercher à associer sa marque à pas seulement aux hamburgers, aux frites, mais aussi à un univers qui est positif. C'est-à-dire que depuis qu'on est tout petit, on associe McDonald's à Ronald McDonald's, à tout un univers. Et c'est au travers de ces associations positives que chaque fois qu'on voit la marque McDonald's, ça va réveiller en nous des associations positives sur la nourriture et ça va éventuellement éveiller en nous le désir pour manger un hamburger ou des frites. Donc ça, c'est une partie création de la marque et association avec des éléments positifs. Et puis, il y a d'autres outils après pour favoriser la consommation, en tout cas consommer plus. Et typiquement, là, les promotions, l'utilisation de promotions dans la publicité, le fait d'avoir une quantité plus élevée pour un prix moindre, enfin pour un petit surplus de prix, ça peut favoriser la consommation supplémentaire. Donc c'est des actions, je dirais, qui ont un impact direct sur la consommation par rapport à des actions qui sont plutôt orientées sur la marque et qui vont créer ces associations à long terme et créer des préférences pour la marque sur le long terme.
Est-ce que vous avez fait vous-même une étude de cas assez précise où vous pouvez démonter point par point ou analyser point par point la stratégie marketing ?
Alors, j'ai jamais fait d'étude de cas précise qui présenterait point par point ces différents éléments. Maintenant, ça, c'est les ressorts généraux que je vous présente là.
Donc, il n'y a pas un petit guide du marketing qu'on pourrait appliquer dans tous les cas. C'est vraiment particulier aux marques.
Oui, c'est particulier aux marques et chaque marque va chercher à créer son propre univers, son propre environnement qui lui est propre. Et donc, c'est difficile a priori définir comment faire parce que ça va dépendre de l'identité de la marque et de ce qu'elle a envie de renvoyer.
Barbara Pfenniger, donc, de la FRC, vous avez envie de réagir ?
Oui. Alors, la FRC, ensemble avec ses collègues alémaniques et italophones, nous avons analysé les publicités alimentaires à la télévision pendant 6 semaines, les publicités pour enfants, pendant les programmes pour enfants. Alors déjà, première surprise qu'on a eue, devinez, 50% des publicités alimentaires pendant les programmes proviennent de McDonald's. Ensuite, donc moitié grosso modo fast-food, grosso modo un tiers des sucreries, des bonbons, des chocolats. Entre autres, un produit que vous connaissez très bien, qui commence avec K et qui est dont le nom en allemand veut dire c'est pour les enfants. Voilà. Alors, les techniques que nous avons vues utilisées pour les enfants, c'était En premier lieu, les couleurs vives, les sons rapides, des dessins animés ou des animations par ordinateur, les personnages de la marque, presque dans la plupart des cas, des publicités pour des produits pour enfants, et des enfants qui jouent, parce que l'enfant il aura envie d'imiter en fait ce qu'il aura vu à la télévision. Qu'est-ce que ces produits promettent en plus qu'on... D'ailleurs, le produit, on ne le voit presque pas. Typiquement, le spot McDonald's, qui dure 20 secondes, le produit lui-même, on le voit pendant environ une seconde et demie. Le reste du temps, on voit les petites boîtes qui deviennent des personnages, qui s'amusent. Donc, amusement. Ensuite, les autres situations, on voit les enfants qui s'amusent ensemble, amitié. On se sent bien. Je me sens bien en mangeant ce produit, je m'amuse, je suis heureux et en plus, je deviens leader. Donc, c'est vraiment un tout. L'aliment, il est secondaire, mais en le consommant, on a des tas d'autres avantages qui viennent. J'achète, je consomme et je deviens quelqu'un de différent. Ça nous a vraiment, vraiment frappés. Et ça, pour les enfants, c'est un message très fort. C'est un message très fort pour nous, les adultes, déjà. Mais un enfant qui ne sait pas encore faire la part des choses, un petit de 6 ans, il ne sait pas encore qu'est-ce que c'est la réalité et qu'est-ce que c'est que la fiction. Qu'est-ce qu'ils font dans ce spot? Il ne sait pas qu'on veut lui vendre un produit. Donc, on se pose des questions, si c'est vraiment bien de montrer autant de spots pour le même produit aux enfants.
Voilà. C'est assez machiavélique ce que vous nous décrivez. Est-ce que la FRC peut faire quelque chose face à ça?
Alors, il y a eu une tentative d'entrer un article dans la loi sur les denrées alimentaires pour limiter les publicités. Cet article a été accepté par le Conseil national et rejeté par le Conseil des États. Et pour finir, il n'a pas eu lieu. Donc nous sommes très déçus, mais on va continuer et on va continuer d'essayer d'améliorer la situation aussi ensemble avec Action Santé. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a certaines entreprises qui sont engagées à améliorer leurs pratiques de marketing. Officiellement, ils ne font plus de publicité pendant les programmes pour enfants, mais quand on regarde plus près, ils ne font plus de publicité pour certains produits pendant les programmes pour enfants, et ce sont eux-mêmes qui choisissent quels sont les produits sains, et ce sont eux qui choisissent qu'est-ce que c'est un programme pour enfants, et donc, on aura envie d'améliorer ça pour que ça devienne vraiment efficace. Et là, nous avons besoin de M. Marcacci et d'Action Santé et de beaucoup d'autres acteurs pour que tout le monde se mette ensemble parce que c'est possible de le faire.
Alberto Marcacci, réglementer, c'est pas la solution, il faut inciter.
Peut-être juste un complément d'information par rapport à Action Santé. C'est une initiative que notre office a lancée en 2009 et... C'est une initiative qui a pour objectif de créer des partenariats entre le secteur public et le secteur privé. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'on a aussi créé cette alliance avec 13 multinationales de l'industrie agroalimentaire qui se sont engagées de manière volontaire à limiter la publicité destinée aux enfants de moins de 12 ans. Et au début, c'était par rapport à la publicité télévisée. Puis après, ils ont commencé à analyser toute la publicité presse et maintenant aussi Internet. Et d'ici la fin de cette année, ils se sont engagés aussi à définir un profil nutritionnel standardisé. Donc, tous les 13 entreprises vont travailler avec le même standard, chose qui n'était pas le cas avant. Donc, chaque entreprise choisissait effectivement son produit et il limitait la publicité par rapport à ce produit. Et puis maintenant, voilà, il y a ce standard qui suit aussi les standards au niveau européen, puisque cette initiative qui s'appelle le Swiss Pledge, et elle a un équivalent au niveau européen, c'est le EU Pledge. Maintenant, par rapport à la question sur la réglementation, c'est vrai que ça a toujours été un débat quand on parle sur la publicité. Et notre position, c'est que avec cette démarche de mesures volontaires, on arrive à trouver des solutions. Il faut par contre avoir des procédures qui sont extrêmement claires, transparentes, et peut-être avoir aussi des entités neutres qui contrôlent cette publicité. À l'heure actuelle, c'est des entités qui sont mandatées par les entreprises qui font le monitorage, et ça, c'est vrai que ça peut être mis en doute, les résultats, et c'est aussi dans ce sens que l'OMS a critiqué l'EU-Pledge, donc la version européenne, et c'est aussi dans ce sens que nous, on aimerait maintenant développer notre instrument Action Santé pour créer vraiment cette transparence et donner une crédibilité plus grande aux activités que les entreprises font.
Je crois que l'OMS a critiqué les pays européens pour leur politique trop laxiste. La Suisse, peut-être, Barbara Pfenniger, elle est aussi trop laxiste en la matière, selon vous ?
C'est sûr qu'elle pourrait faire mieux. Hein. Ouais. Parce que laisser aux entreprises le soin de s'engager, c'est bien joli. Parce que déjà, ça concerne un nombre restreint d'entreprises. Il y en a d'autres, comme justement Ferrero, qui ne font pas partie. Et ça, c'est pas normal. Idéalement, ce serait la même chose pour toutes les entreprises. Ça se fait en Grande-Bretagne. Là, c'est le gouvernement qui a développé la limite pour dire, voilà, ça, c'est un aliment sain et ça, ça ne l'est pas. Et je trouve que c'est plus logique si c'est des experts indépendants aux entreprises qui choisissent plutôt que les entreprises elles-mêmes. Mais juste un petit complément. Les fruits et légumes, il y avait des publicités, mais c'était moins de 1%. Je crois qu'il y en a eu deux pubs du genre. Et là, l'autre chose, c'était des publicités pour les légumes suisses avec Barry et Jean. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a un chien et Lois qui sont amusants. Et ces publicités sont en fait subventionnées par l'Office fédéral de l'agriculture via donc les producteurs de légumes. Pourquoi pas Mais les producteurs de légumes, ils n'avaient pas pensé que ça pouvait être intéressant d'émettre ces spots pendant les programmes pour enfants. Ils n'y avaient jamais pensé. Il n'y a pas ce genre de conditions liées à cette subvention qui n'est quand même pas négligeable. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais je crois que c'est confortable.
En vous écoutant, j'ai quand même envie de vous poser une question. Que peut faire le meilleur marketing du monde avec la meilleure volonté face à des poids lourds comme McDo, comme Coca-Cola? Je ne sais pas qui a envie de répondre.
Il y a des exemples où les entités de santé publique, les ministères, ils ont créé des chartes avec des règles et ils ont négocié ces chartes et ces règles avec les entreprises. Et au fait, ils ont utilisé la force de l'économie pour transmettre le message de santé. Et c'est peut-être là la clé, c'est créer un nouveau marketing qui est plus dirigé vers la santé et moins vers ces mécanismes, ces petits jeux que Valérie a expliqué avant. Et ça, on a des exemples. En France, il y a quelques exemples avec des jambons ou d'autres produits où justement ils ont donné des messages de santé par rapport à ces produits. Il y a d'autres exemples que maintenant j'ai pas en tête, mais on pourrait utiliser cette piste. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus focaliser toute l'attention sur ce problème lié au marketing, puisque ce qui serait intéressant, c'est plutôt se poser la question, quels sont les facteurs protecteurs? C'est quoi qui protège l'enfant par rapport à ces publicités? On voit les statistiques, depuis 2001, l'obésité chez l'enfant a plutôt stabilisé autour de 20%. Donc il y a 80% des enfants qui ne sont pas touchés, et ça serait intéressant de comprendre pourquoi ces enfants ne sont pas touchés alors qu'ils sont confrontés tous avec cette publicité. Et peut-être il y a justement là la clé du succès, c'est l'éducation, peut-être renforcer des activités au niveau de l'éducation, au niveau de l'école, l'entourage familial qui est extrêmement important pour le choix et le comportement alimentaire, la découverte de l'alimentation. Les enfants, ils découvrent de quoi se fait une purée de pommes de terre. Enfin, ils ne savent pas que c'est du pommes de terre. Ça, c'est des tests qui ont été faits sur des enfants. Pour des enfants, la purée, c'est le sachet. Et il y a des jolis exemples au Valais, comme Saint-Saucin, côté Saint aussi, où on fait découvrir les produits du terroir, les produits, vraiment le contenu de certains aliments. Et c'est là où on arrive peut-être à donner aux enfants cette culture et ce respect à la nourriture. Et c'est peut-être aussi ça qui permet de créer une barrière vis-à-vis de la publicité et le choix que l'enfant va faire. Et c'est aussi dans ce sens que dans notre politique, on a plutôt une politique de partenariat volontaire et on va investir plus sur ce type d'activité. Et la réglementation, c'est extrêmement coûteuse en termes de ressources, en termes de temps, alors que des actions concrètes sur le terrain qui vont changer les contextes de vie, c'est des actions qui permettent vraiment d'être efficaces au court terme. Donc c'est dans cette direction que notre politique est adressée.
Prune Meclis, on ne vous a pas encore entendu. Alors déjà, une première question, quels ont été les échos que vous avez reçus de l'émission Temps Présent qui était consacrée à votre concours la semaine dernière ?
C'est vrai que depuis jeudi passé, on a reçu énormément de messages très positifs dans la plupart. On a eu la chance pendant les 5 mois d'aventure, plus les 2 mois de casting, d'être suivis par les caméras de la RTS. C'est une aventure absolument hors du commun. Ce que les gens retiennent, c'est de voir la transformation de ces jeunes femmes. Petit point négatif, c'est vrai qu'on les voit dans le reportage beaucoup confrontées à des douleurs, à ce qui est douloureux quand on est ronde, quand on est en surpoids. C'est parfois un petit peu larmoyant, mais on a vécu tellement de rires, tellement de choses motivantes, tellement de transformations physiques et internes. Et les gens ont vraiment été touchés par ça. Parce que c'est vrai que le surpoids, c'est simplement la fin d'une chaîne qui s'installe depuis très longtemps, depuis l'enfance. Souvent, on a besoin qu'il y ait des normes aussi qui réglementent certaines choses. Comme on discutait tout à l'heure, il y a un problème d'éducation. Mais en fait, le marketing vient répondre à un besoin. Il crée parfois le besoin, mais il vient répondre à des manques, à des choses qui, voilà, dont on va venir excusez-moi, j'ai de la peine à trouver mes mots, à se combler avec tout ce que la société nous offre tellement facilement. Et si les personnes, aussi belles soient-elles, deviennent rondes, c'est vraiment parce qu'il y a quelque chose à combler dessous. Alors, il y a des problèmes de santé. Hein, on est conscient aujourd'hui que quelqu'un peut faire tous les efforts qu'il veut, du sport, de la bonne nourriture, etc. S'il y a un problème de santé, notamment hormonal, une personne va pouvoir grossir sans y être pour rien du tout. Donc, il y a aussi une matière d'éducation là-dessus. Mais les gens ont vraiment été touchés. Et je crois que c'est le début d'une aventure qui va se faire d'année en année. En tout cas, on a l'énergie pour ça, on a l'envie pour ça. Et les jeunes femmes qui ont vu ce reportage ont été... Comment dire ça ? C'était vraiment, on les rejoignait dans leur souffrance, dans leur quotidien, dans ce qui fait aussi qu'elles se sentent parfois belles avec leur rondeur. Et vraiment, elles se sont senties rejointes. C'est une des choses qui revient le plus suite à ce reportage. Donc... voilà, comment pouvoir faire connaître encore plus ce concours, pouvoir rassembler toujours plus de monde et comment pouvoir intervenir dans la société, parce que le simple fait d'élire qui est la plus belle, ça ne nous intéresse absolument pas. Ce qu'on veut, c'est rejoindre ces femmes qui parfois se sentent très très bien dans leur peau, d'autres fois vivent de vraies souffrances, les comprendre, les accompagner et les amener vraiment vers un éveil et vers une fierté d'elles-mêmes.
Vous avez beaucoup discuté entre vous pendant cette grande aventure ?
Entre nous, entre candidate et présidente, oui. C'était vraiment notre but d'être proche d'elle le plus possible. Après, bah, forcément, on est pris par la spirale médiatique, l'organisation, l'agenda, les mois qui filent. Mais on avait vraiment envie d'être proche d'elle parce qu'on les a choisies, ces filles. Elles ont été une quarantaine à se présenter, à postuler. On en a sélectionné 20, elles ont été 19 à passer la finale. Et on les a vraiment choisies parce qu'on avait envie de passer du temps et de leur apporter quelque chose. On a vu dans chacune des filles qu'on a sélectionnées un potentiel, quelque chose qui pouvait vraiment rayonner, une beauté, une élégance qui pouvait éclore chez toutes ces jeunes femmes. Et c'était cette envie d'être proche d'elles qui nous a poussées à faire ça.
Très bien. Parlons maintenant un petit peu, on l'a déjà un peu évoqué, mais des solutions possibles aussi pour contrer le marketing des grandes marques. Par exemple, tiens, un exemple au Pérou. Le pays a voté une loi nationale contre la malbouffe qui a interdit certaines publicités. Est-ce que sur cet exemple-là, c'est quelque chose qu'il faut suivre peut-être ? C'est une exception ? C'est quelque chose qui est appelé à se généraliser peut-être ?
je réponds tout de suite. Moi, je pense que oui. Parce que on voit qu'en laissant une certaine liberté, les entreprises sont tellement puissantes, et plus l'entreprise est grande, plus elle est puissante, qu'elle a toujours 10 000 moyens de détourner les choses. Vous disiez vous-même tout à l'heure que les entreprises choisissent elles-mêmes qu'est-ce qu'elles veulent interdire ou pas, permettre ou pas. Il y a un moment où il faut se positionner. Si on ne met pas des lois claires, on va toujours continuer à créer ce besoin et de manière détournée. On parlait tout à l'heure de McDonald's. McDonald's, depuis quelques années, a changé ses logos et sa décoration, a essayé de se mettre un petit peu plus verte. Il ne leurre pas beaucoup de monde. Malheureusement, ils arrivent à en leurrer quelques-uns. Mais on sait que c'est poison, on sait que ça ne fait que du mal, et pourtant, on continue à permettre ce genre de choses. Typiquement, je suis assez révoltée sur tout ce qui est cigarettes et compagnie. Pourquoi est-ce qu'on permet encore la production de ce genre de choses? Parce qu'il y a énormément d'argent en jeu. Mais si les gouvernements ne se positionnent pas, n'interdisent pas les choses très clairement, si les peuples ne se positionnent pas également en disant « maintenant j'en ai marre de subir ces choses et je continue de donner la part belle à ces personnes qui ont le pouvoir », ça va continuer et ça va toujours aller de mal en pire. L'obésité augmente, augmente, augmente. Alors, ma position en tant que présidente de Miss Ronde est de dire « on peut être belle avec ses rondeurs », mais l'obésité est une maladie et c'est au peuple et au gouvernement d'y faire attention.
C'est un vrai problème de santé publique. Alberto Marcacci, une réaction.
Oui, c'est clair que l'obésité, c'est un grand problème de santé publique. C'est un des facteurs de risque des maladies non transmissibles importants. On a les derniers chiffres qui sont sortis actuellement par rapport au coût de l'obésité. On parle de 8 milliards. Comme j'ai dit, par rapport aux enfants, on a plutôt une stagnation. Chez l'adulte, une légère augmentation. Puis si on regarde les détails, eh bien, on voit que cette augmentation est peut-être plus liée à des facteurs socio-économiques, mais voire aussi par rapport à la nationalité, donc les migrants et comme ça. Maintenant, j'aimerais revenir justement sur cette question qui, à chaque fois qu'on parle de publicité, on revient toujours là sur la réglementation, la taxation. J'ai discuté il n'y a pas longtemps avec un qui travaille dans une multinationale. Il parlait avec le ministère du Mexique par rapport à la taxation sur les sucres, les graisses et le sel, pardon. C'est clair, là, si on regarde les données, on parle de 30% de personnes qui sont obèses, seulement obèses. Les obèses avec le surpoids, on parle de 70%. Donc, c'est clair que quand on arrive dans une population où il y a 70% des personnes qui sont surpoids obèses, en termes de santé publique, c'est vraiment extrêmement grave. Et donc là, la mesure volontaire, elle est insuffisante. Donc là, c'est clair qu'il faut intervenir, interdire. Maintenant, chez nous, la situation, heureusement, elle n'est pas aussi grave. L'obésité, ça reste un problème important. Et je pense qu'il y a d'autres pistes que la réglementation, puisque la réglementation n'est pas une mesure qui est éducative. Et c'est un peu le chat qui se mord la queue. On va faire une réglementation. L'économie va de toute façon trouver une autre solution parce qu'ils sont dans une logique économique et c'est le chiffre d'affaires qui compte. Donc, c'est soit on continue de cette manière, soit on utilise le pouvoir de l'économie pour tourner la tendance et créer de nouveaux marchés. Maintenant, on crée de nouveaux marchés avec des produits qui sont malsains. Mais on peut aussi créer des marchés avec des produits qui sont sains, donc valoriser ces produits. Et au fait, si les entreprises arrivent à faire ce type de marketing, c'est parce qu'il y a une demande. Parce que de l'autre côté, il y a quelqu'un qui achète, qui alimente ces entreprises. Donc, c'est qu'est-ce qui permet de changer ce choix, ce comportement, pour créer justement des marchés qui sont plus des marchés de santé. Et c'est là où ça serait vraiment intéressant de voir quels sont ces éléments, quels sont les éléments protecteurs qui permettent de faire ces choix. Je ne pense pas que la réglementation, ça soit vraiment la bonne direction. Donc nous, en tout cas, on va exploiter à fond aussi, comme Barbara a dit, cette possibilité de réglementer, mais de manière volontaire. Et on a déjà eu des résultats. Donc c'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'autres entreprises qui devraient faire partie de cette initiative Action Santé. Mais je pense qu'on arrive à atteindre des résultats voilà, importants par rapport au marketing.
Sur l'efficacité de l'interdiction, j'aimerais peut-être entendre le professeur d'université sur cette question-là.
Alors, sur l'efficacité, je pense que si on ne permet plus justement de créer des marques, l'effet sera énorme sur Typiquement, la vente de produits McDonald's, si on ne leur permet plus de créer leur marque, de construire leur marque, de communiquer à propos de leur marque, l'effet sera énorme. Et je pense que les effets, par analogie avec les paquets blancs de cigarettes en Australie, je n'ai pas vu les chiffres récents, mais je suis convaincu que l'effet sur les ventes de cigarettes va être important. Donc je pense que l'effet sera effectivement grand. Maintenant, le choix, enfin, c'est un choix de société. Après, c'est plus un choix idéologique qu'un choix. Enfin, ça va au-delà de la rationalité, finalement, je pense. Et c'est aux gens de savoir qu'est-ce qu'ils veulent comme modèle par rapport à cela. Peut-être un élément sur la façon de promouvoir des comportements alternatifs, quelque chose de plus sain. Il y a quand même quelques difficultés. Je pense, d'une part, si on regarde d'un point de vue communication publique, c'est beaucoup plus difficile de créer des marques. Et les marques, ça permet vraiment de simplifier un message qui peut être assez complexe, qu'il y a derrière une entreprise, en un logo, en quelque chose qu'on repère tout de suite et qu'on associe à un produit, à une entreprise en particulier. Lorsqu'on promeut des fruits et des légumes, on ne peut pas avoir ça. C'est quelque chose d'extrêmement varié. On ne peut pas réduire ça à une marque. Donc là, c'est un outil qu'on n'a pas et qui est... Et donc ça rend les choses plus difficiles. Et puis, d'autres éléments, je pense que les produits, le consommateur, lorsqu'il fait son choix de nourriture, le premier critère de choix, c'est le goût. Après, on aura peut-être le prix, la praticité, la santé, ça ne vient pas au début. Et donc ça, le problème, c'est qu'on a, on crée des inférences, on a des inférences, à savoir, on associe typiquement peu de calories avec quelque chose de pas nécessairement goûteux. On associe, on infère quelque chose qui est light, on va inférer que c'est moins bon. Inférer, ça veut dire déduire que c'est moins bon. Et donc, ça rend les choses très difficiles parce que non seulement le goût n'est pas notre la santé n'est pas nécessairement notre premier critère de choix, à part peut-être un public ou un des segments de consommateurs avertis dont vous faites peut-être partie si vous êtes ici, mais pour la majorité des gens, je ne pense pas que ce soit le cas. Et en plus, vu qu'on infère quelque chose de sain, peu calorique, à quelque chose de moins goûteux, ça rend les choses d'autant plus difficiles.
Barbara Pfenniger, je vous voyais acquiescer, alors je vous laisse. Ah, peut-être la Moumelle Mariani.
Oui, ouais, je voulais juste relever qu'effectivement, quand on parle d'alimentation saine, nous on préfère parler d'alimentation équilibrée, parce qu'il n'y a pas vraiment de sain ou de malsain, mais c'est vraiment l'ensemble et l'équilibre sur l'ensemble, ben, on voit le glissement de langage où tout de suite on parle de produits light, alors qu'il faut répéter que l'alimentation équilibrée, ça peut être bon, et puis ce n'est pas forcément light. Donc c'est vraiment... Là, on voit qu'il y a vraiment aussi des je ne sais pas quel mot utiliser, mais il y a vraiment des représentations, voilà, qui sont extrêmement difficiles à changer. On l'a vu, par exemple, aussi, on a fait des essais avec Fourchette Verte. Je ne sais pas si tout le monde connaît Fourchette Verte, qui est un label, en fait, d'alimentation équilibrée, qui, dans le canton, marche très fort auprès des structures d'accueil pour enfants, mais dans la restauration privée, pas du tout. Donc, il y a vraiment un déficit d'image, et on a essayé à plusieurs reprises de faire des actions pour améliorer ça, par exemple d'avoir un restaurateur reconnu qui puisse être Fourchette Verte, mais c'est extrêmement difficile parce que ces préjugés-là, ils ont vraiment la vie dure. Et puis, une fois de plus, il faut vraiment faire attention dans la communication grand public de ne pas assimiler l'alimentation équilibrée à une alimentation light, quoi. C'est vraiment pas du tout ça l'objectif des discours de santé publique.
Alors, qui en premier, Valérie Besançon ou Barbara Pfenniger?
En fait, dans les inférences dont je vous parlais, on a les deux aspects. On a l'aspect peu calorique, qui est un peu en opposition avec coûteux. Et de même, des études ont montré que l'aspect sain était aussi en partie en opposition avec goûteux. Pas en opposition, mais qu'on ne pense pas au goût lorsqu'on pense à sain. Et c'est de la même manière... lorsqu'on pense qualité, enfin prix élevé, on va inférer que c'est de la bonne qualité. À tort ou à raison, mais c'est des associations qu'on a. Effectivement, là, il y a peut-être du travail à faire pour casser ce genre d'associations qu'on peut avoir.
Aux États-Unis, il y a eu une expérience. Ils ont fait de la publicité pour des fruits et légumes de proximité. Typiquement, donc ils n'ont pas mis en avant le fait que ce soit des fruits et légumes, mais la proximité. Et c'est quelque chose qui est aussi cherché ici. Et cela a amené davantage de consommation de fruits et légumes par cet argument. c'est proche de chez vous, c'est sympa, c'est la tradition, vous savez d'où ça vient, c'est naturel. Et ça, ça a convaincu les gens à manger plus de fruits et légumes, donc ils se sont nourris de manière plus sainement qu'avant. Et je trouve que c'est une façon de faire qui est tout à fait intéressante et qui serait aussi possible d'appliquer en Suisse. Parce que là, le fait de créer une marque, je suis tout à fait d'accord. Les marques, c'est quelque chose de très, très fort. C'est quelque chose qui entre dans l'imaginaire des gens, des enfants. Et c'est clair que les entreprises savent très, très bien jouer avec ça. Mais jusqu'à présent, la santé n'a pas créé une marque assez forte. Il y a Action Santé qui a essayé de créer une marque, Fourchette Verte aussi. Mais des marques, en fait, qui disent, voilà, ça c'est bien. C'est simple et pas seulement bon pour la santé, ça devrait être intrinsèque, mais ça, c'est chouette pour vous, c'est quelque chose de bien.
Ah, peut-être avant que Alberto Marcacci réagisse, est-ce que vous avez le sentiment, peut-être vous, que la Suisse a du retard en la matière, peut-être aussi parce que le problème est plus jeune que par exemple aux États-Unis?
On a beaucoup de chance parce qu'il y a des pays où c'est pire qu'ici, typiquement au Mexique par exemple, ou bien... Ils ont vraiment des grands, grands problèmes d'obésité. J'ai des collègues consommateurs du Mexique. Quand ils me montrent des photos de chez eux, il y a des publicités de Coca-Cola partout. Partout, partout. C'est rouge. N'importe quelle enseigne de magasin, du bistrot, c'est toujours Coca-Cola avec ensuite le nom du bistrot. Donc c'est vraiment c'est une présence qui est massive. Et les familles, les mamans donnent du Coca-Cola à boire à leurs enfants. C'est quelque chose d'assez impressionnant. Donc, au Mexique, ils ont mis une taxe pour les boissons sucrées. Ça a eu un effet, juste en parenthèse. Mais nous, on n'en est pas encore là. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on n'arrive pas là, en fait. Il n'y a pas besoin d'arriver au pire pour réagir. Je crois que la Suisse, elle a la chance d'avoir encore une tradition culinaire. Il faut la maintenir. Le canton de Neuchâtel aussi a une tradition culinaire. C'est ça le lien entre les générations aussi, le lien avec le terroir. Et ça, c'est quelque chose de précieux et qu'on doit maintenir. Les artisans aussi. Typiquement les boulangers qui existent encore, le lien de proximité avec l'agriculture de proximité, ce lien, les consommateurs, ils ont envie de ça, alors autant le leur donner. Je crois que c'est bien.
Vous parlez du Mexique, j'ai envie de parler de l'Australie, où j'ai l'impression qu'il y a une dichotomie entre, je crois que c'est un des pays qui a le plus fort taux de personnes obèses, et puis d'un autre côté, vous avez énormément de sportifs aussi en Australie, on voit des gens qui courent avec les poussettes dans les rues de Sydney, enfin... C'est un exemple assez atypique qui montre aussi que peut-être, même dans une société assez saine, il peut y avoir un grand problème de l'autre côté. Je ne sais pas. Qui veut réagir sur cette question, peut-être sur l'Australie? Ça ne vous inspire pas beaucoup? Alors, je vais laisser M. Marcacci répondre sur finalement le fait que c'est quand même plus facile de vendre un hamburger qu'un radis, quoi.
Probablement, mais je pense que le marketing social a quelque chose à faire là-dedans. Il y a des jolis exemples au Canada. Je crois qu'ils étaient un peu les précurseurs du marketing social utilisé pour donner des messages de santé. C'est des campagnes, je crois que les premières, c'était par rapport au tabagisme. Elles sont vraiment exceptionnelles, où ils ont regardé la sensibilité des personnes. Ils ont adapté la publicité la campagne pour l'arrêt du tabac. Et ça marchait. Je crois que la première, c'était pour les médecins. En Italie, il y a une autre campagne qui a été faite pour les pommes. Donc, c'était cette marque de pommes. Et au fait, ils ont utilisé les enfants pour créer cette publicité. Et ça marche du tonnerre. C'est au fait, on arrive à créer une tendance par rapport à certains produits qui sont sains. Mais voilà, il faut encore des investissements, des réflexions pour justement, comme je disais avant, valoriser plutôt ces produits, et ça a été dit, les produits du terroir, cette connaissance du bon produit, donc le valoriser à travers ce type de campagne. Et puis, au fait, porter l'attention plus sur ces produits et enlever moins d'attention sur les produits malsains. C'est comme ça qu'on arrive à créer une nouvelle tendance, une nouvelle norme. Tant qu'on insiste sur les discussions autour de cette problématique, on n'investit pas cette énergie pour développer notre marché qui est plus sain. Puis c'est vrai, ça a été dit, au fond, il n'y a pas d'aliment qui est malsain. C'est aussi une question de quantité. Qu'est-ce qu'on en fait? Du moment qu'on garantit la sécurité alimentaire du produit, c'est clair, l'hamburger, c'est riche en calories, mais je peux manger un hamburger si après j'ai un bon équilibre énergétique. C'est clair que si je mange un hamburger tous les jours, c'est malsain. Donc c'est ce type de comportement qu'il faut analyser et pourquoi je vais manger un hamburger tous les jours. Est-ce que j'ai une bonne éducation au niveau nutritionnel? Est-ce que j'ai un bon entourage? Est-ce que j'ai l'accessibilité à la nourriture saine? C'est tous ces éléments et c'est là où nous, en tant qu'entité de santé publique, on peut aussi intervenir pour modifier les contextes de vie. Donc voilà, c'était... Oui, je ne sais pas si
c'est très bien.
J'ai répondu.
Vous avez répondu à la question. Donc le marketing fait la malbouffe, on l'a bien compris. Il peut aussi la défaire. Et là, je me tourne vers Valérie Besançon. Quelles sont les techniques à disposition des pouvoirs publics, techniques marketing, pour pouvoir véhiculer un message?
Bon, je pense qu'Alberto a justement parlé du marketing social. Et je pense qu'au niveau des organismes publics, il y a eu une grande évolution entre, à l'époque où on avait simplement une campagne d'information qui informait simplement sur le fait qu'il fallait bien manger et c'est tout. Et maintenant, on commence à aller plus loin déjà en termes de communication, à savoir à réutiliser des leviers que le marketing utilise. Typiquement, le marketing ne prend jamais l'audience comme un tout, c'est toujours segmenté, ça veut dire on a tous des sensibilités différentes, on a tous des besoins, des désirs différents, et le fait d'apporter une information qui est la même à tout le monde ne va pas être convaincante, ne va être convaincante pour finalement peut-être personne, parce qu'on crée la même information pour tous. Donc là, le fait de vraiment comprendre qui est notre audience et peut-être de focaliser les programmes, que ce soit de la communication ou des programmes marketing, sur des segments particuliers, de différencier chacun des messages aux personnes à qui on s'adresse. Ça, on le remarque de plus en plus, ça se fait au niveau du public aussi. Donc, on réutilise finalement ce que les entreprises ont utilisé dans leur communication. Et puis, maintenant, on va de plus en plus, encore plus loin, effectivement, les pays anglo-saxons sont assez précurseurs en la matière, dans le sens où on va au-delà de la communication pure. Les entreprises, si vous analysez, typiquement McDonald's ou Coca-Cola, ce n'est pas uniquement de la communication qu'ils font, c'est aussi des promotions, c'est des prix qui varient en fonction de... En fait, ils ont une proposition de valeur à leurs clients cibles. Là, vous avez parlé, ils vendaient du rêve, ils ne vendent pas d'un hamburger, ils vendent autre chose. Et là, c'est pareil, on peut aller au-delà pour comprendre qu'est-ce que vraiment on veut en termes de changement de comportement, qu'est-ce que ça apporte aux personnes, et finalement de développer sa campagne qui n'est pas uniquement de la communication, mais aussi aller sur proposer une solution. Si vous voulez augmenter l'activité physique parmi la population, ce n'est pas uniquement avec la communication, mais ça peut être, par exemple, en proposant, en ayant des partenariats avec des centres sportifs, en ayant des incitations temporaires, par exemple, des promotions pour encourager l'essai d'un comportement, à savoir essayer un nouveau sport. C'est vraiment une solution entière, et ce n'est pas uniquement dire aux gens qu'il faudrait faire plus d'activité physique, parce que ça, on se rend compte que ça ne marche pas nécessairement.
Et puis aussi favoriser l'accès à ce qui est positif. En général, en Suisse, quand même, les gens sont relativement bien informés sur ce qui est sain pour la santé. Après, c'est vraiment une question d'accès. C'est tellement facile d'avoir des produits qui sont mauvais pour la santé, d'avoir de la malbouffe. C'est tellement peu cher. Je vois le nombre de personnes qui, pour différentes raisons, vont choisir la facilité. On cherche toujours cette facilité parce qu'on est des gens qui ont tellement l'habitude dans notre société de tout avoir et tellement facilement qu'on cherche toujours cette facilité. Si c'était extrêmement facile d'avoir des produits qui sont bons pour nous, que c'était peu cher d'acheter du locavore, par exemple, d'avoir vraiment des produits de proximité. D'avoir plus de petites échoppes le long des routes qui nous vendent des choses saines pour la santé plutôt que des McDonald's. Moi qui vis à Lausanne, rien qu'en centre-ville, il y en a trois. En quelques centaines de mètres, je peux passer d'un McDo à un autre. Alors que pour trouver des produits un peu plus sains, je dois aller un petit peu plus loin. Je sais cuisiner, donc pour moi, j'ai l'envie d'y aller. Après, ben, vous voyez mon physique aussi, vous voyez que pendant longtemps, je n'ai pas suivi ce comportement-là. Mais pour beaucoup de personnes, il n'y a pas cette envie d'aller vers la facilité. Et ça, c'est non seulement de l'éducation, mais vraiment une responsabilité sociale de rendre plus facile d'accès et moins cher ce qui est bon.
C'est vrai, ça, dans notre société, on est extrêmement, de plus en plus stressé, on a moins le temps et donc on se tourne parfois vers des solutions de facilité. Alberto Marcacci.
Je voulais juste rebondir sur l'accessibilité puis la question de prix. On vient de publier une étude justement sur cet aspect et on a voulu casser un peu ce mythe que la nourriture saine coûte cher. Et au fait, c'est l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires qui a publié cette étude. Ils se sont intéressés justement de voir le panier des achats par rapport à un panier qui est sain et puis un panier malsain. Donc le panier sain pour un couple en Suisse, ça coûte 109 francs par semaine. Par contre, le panier sain, le panier malsain, on peut l'appeler comme ça, c'est 95 francs. Donc on voit que la différence, elle est vraiment limitée et l'accessibilité, elle est là. C'est vraiment une question de choix. On va à la Migros, on trouve la bouffe malsaine comme la bouffe saine. On peut vraiment se concocter un repas sain si on va à la Migros, à la Coop ou n'importe où. Donc cette question de prix plus élevé d'accessibilité, je pense que de plus en plus, voilà, c'est plus un thème par rapport à ce débat. Après, au niveau de l'accès, c'est l'accès à la nourriture, mais c'est aussi l'accès par rapport à l'activité physique, aux infrastructures. Et là, de plus en plus, des cantons mettent à disposition l'accès libre aux infrastructures qui, avant, elles étaient réservées seulement à des associations sportives, voire des communautés universitaires, notamment à Lausanne, depuis presque une décennie, tout le service des sports universitaires a ouvert les infrastructures le week-end pour permettre à la population d'accéder à ces infrastructures. Et là aussi, ça a eu un succès immense. Le jour qu'ils ont ouvert, le week-end après, c'était incroyable, c'était plein de monde. Donc c'est des petites activités qu'on peut faire dans notre contexte de vie qui permet justement de faciliter ce choix favorable aux promoteurs de santé. Les solutions, elles existent, il faut les pratiquer. Après, c'est vrai que c'est une responsabilité sociétale, mais c'est une responsabilité qui concerne beaucoup d'acteurs. Donc il faut que tous ces acteurs soient vraiment sensibilisés et qui jouent le jeu pour qu'on ait vraiment une approche qui est globale. Nous, en tant qu'institution de santé publique, on a une petite responsabilité. C'est aussi pour ça que dans le cadre de notre programme national Alimentation et Activité Physique, c'est un programme qu'on mène en collaboration avec l'Office fédéral du sport, Promotion Santé Suisse, l'Office fédéral de la sécurité alimentaire, les cantons et puis bien sûr notre office, justement pour créer cette approche multisectorielle, multipartenaire.
Barbara Pfenniger.
Petit complément. Certaines entreprises font aussi la promotion d'aliments sains, entre autres McDonald's qui fait des Happy Meals sains pour les enfants avec des bâtonnets de carottes à la place des frites. D'après McDonald's, chaque enfant qui saurait pas, qui n'a pas encore décidé quel Happy Meal choisir, on lui proposerait des bâtonnets de carottes en premier. On a fait des tests, c'était pas vraiment le cas, c'est pas représentatif, hein, mais mes collègues sont allés avec leurs enfants, à aucun enfant on a proposé des bâtonnets de carottes, et McDonald's voulait pas nous donner ses chiffres de vente des carottes. Donc on ne sait pas finalement s'il y a plus de Happy Meal avec carottes ou plus de Happy Meal avec des frites. Mais j'ose, enfin voilà, on en doute. Et l'autre exemple, il y a des frigos dans les magasins, la facilité de l'accès. La Migros qui est près de notre bureau, ils ont des frigos près des repas tout près. Et qu'est-ce qu'on trouve dedans? Des boissons sucrées. Il n'y a aucune eau minérale dedans. Après, j'ai contrôlé dans d'autres Migros, il y a des eaux minérales. Mais quand même, ça, c'est un lieu important pour pouvoir trouver aussi de l'eau et pas seulement des boissons sucrées. Justement là où on choisit le sandwich, il faut qu'on ait le choix des deux, enfin qu'on puisse choisir. Parce qu'un consommateur qui doit faire un chemin supplémentaire pour prendre sa bouteille d'eau, ben il va l'oublier et prend ce qu'il y a devant lui. Nous sommes tous les mêmes, on prend ce qu'on a devant les yeux.
J'aimerais revenir sur l'efficacité peut-être du message publicitaire. Ah, bah, peut-être d'abord vous.
Je voulais juste rebondir sur plusieurs choses qui ont été dites. Donc, moi, je suis en partie d'accord avec M. Marcacci, où je pense que ces éléments d'éducation, d'aider aussi les parents dans l'éducation des enfants, à prendre la distance, etc., toutes ces conditions cadres sont extrêmement importantes, mais elles ne sont pas forcément en contradiction avec des choses qui sont plus contraignantes. Donc, moi, je ne suis pas là pour donner mon avis personnel à ce niveau-là, mais il faut quand même dire, par exemple, voilà, si on prend l'exemple du canton de Neuchâtel, notre budget, c'est 300 000 francs par année. Pour entrer dans des mesures vraiment ambitieuses, qui touchent tout le monde, etc., de faire de la segmentation pour bien toucher son public cible, ben, on est quand même vite coincé, donc c'est extrêmement difficile, et c'est de l'argent public qu'on investit, alors qu'en parallèle, ben, voilà, le marketing privé, ben, c'est des bénéfices privés également, donc. Voilà, juste pour mettre en regard ces deux choses. Voilà. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Mme Meukli. Effectivement, en parlant d'accès, j'ai jamais fait l'exercice, mais de se promener dans la rue, combien de distributeurs de chocolat et de boissons sucrées on va croiser à la poste, à la gare, enfin partout. Combien on va trouver de distributeurs ou d'endroits où on peut s'acheter quelque chose d'alternatif, j'ai l'impression qu'il y en a un petit peu moins. Donc c'est effectivement le travail des pouvoirs publics de rendre le choix, c'est ce qu'on dit, rendre le choix sain, le choix le plus facile, mais il y a beaucoup de travail à faire et pas forcément beaucoup d'argent. Et de manière générale, je trouve que le soutien pour la promotion de la santé est pas extrêmement vif dans notre pays, hein, donc les ressources sont vraiment maigres par rapport à ce qu'on met dans le secteur des soins. Et puis également, souvent quand on parle de ces comportements de santé, dans le discours, ce qu'on entend beaucoup, c'est que c'est une responsabilité individuelle et que l'État n'a pas à intervenir, c'est une responsabilité individuelle. Moi, je suis quand même convaincue qu'il y a une responsabilité sociale, comme vous, et puis qu'il y a beaucoup à faire, et puis voilà, le marketing social, moi je suis très très preneuse pour en apprendre plus et pouvoir mieux l'appliquer, mais je pense qu'il y a aussi d'autres éléments à prendre en compte.
Maintenant, sur l'efficacité du message publicitaire, on sait qu'il y a des pubs assez agressives contre la malbouffe. On a des exemples, mais plutôt à l'étranger. J'ai l'impression peut-être que Barbara Pfenniger, vous en connaissez quelques-uns de ces exemples de publicité assez agressives. Pas contre la malbouffe. Alors, monsieur peut-être Besançon, par exemple, cette publicité australienne.
Oui, effectivement, j'ai vu un ou deux spots publicitaires, je ne me rappelle plus où c'était, mais qui étaient assez agressifs. Après, en termes d'efficacité, c'est la question de savoir est-ce que d'être... de provoquer le dégoût, par exemple, hein, de provoquer la peur, est-ce que c'est toujours la bonne solution ? Pas nécessairement. Lorsqu'on va trop loin d'un côté à provoquer des émotions négatives, le consommateur peut éventuellement se détourner, se distancier du message parce que soit il n'y croit pas, parce que c'est trop violent, soit il se détourne. Donc la peur, provoquer la peur, ça peut marcher si vraiment on a des solutions, on arrive à proposer des solutions qui vont avec, qui permettent de réduire cette menace, hein, en quelque sorte. Donc il faut aussi faire attention, c'est pas parce que c'est plus violent que c'est plus nécessairement plus efficace.
Alors est-ce que la Suisse fait assez? Encore une fois, la question vous est posée, monsieur Marcacci.
Fait assez dans quel sens pour...
toujours en matière de promotion.
Par rapport à la publicité.
Absolument. Ouais.
Je pense qu'en Suisse, il n'y a pas des exemples où on utilise ce type de marketing pour promouvoir des comportements sains. Il y a quelques exemples que j'ai pu voir en France. C'est une marque de jambon qui a utilisé la publicité pour ce jambon pour donner des messages sur la réduction du sel. Donc on voit ce jambon en premier plan, puis c'est dans le cadre d'un repas familial, et puis il y a la maman qui parle avec l'enfant en disant que voilà, le sel, c'est pas bien pour la santé, puis elle prend le sel et le jette derrière. Mais voilà, c'était une publicité pour une marque. Il y a aussi une autre, c'est un grand producteur d'eau qui fait aussi de publicité où le message, il est positif. Le message, c'est pas vraiment il faut pas faire ci et ça, mais plutôt valoriser le produit sain. Donc, à l'occurrence, c'était de l'eau. Et puis, ça a été mis en scène avec extrêmement intéressante, captivante, mais dans un message positif. L'autre publicité que j'évoquais sur la pomme en Italie, là aussi, hein, c'est vraiment des messages positifs pour valoriser, mais dans le sens positif, c'est ces produits et attirer la personne, l'individu, vers ce type de choix. Je pense que là, il y a peut-être encore un potentiel à jouer, et je pense que en présentant ce type de publicité aussi aux entreprises, peut-être là, pourquoi pas, peut-être on peut jouer avec la force des entreprises et utiliser leur potentiel économique aussi pour tourner la publicité en intégrant des messages de santé. On est loin, très loin de cette réalité, mais pourquoi pas justement l'exploiter. C'est aussi dans ce sens que dans le cadre d'Action Santé, on est en train de réfléchir sur des nouveaux modèles.
Alors c'est bientôt l'heure des questions. J'aimerais encore en poser une avant peut-être faire un premier tour dans le public. On a vu Michelle Obama s'impliquer contre la malbouffe enfantine. Est-ce qu'on peut tout à coup imaginer un Didier Burkhalter en cuissette pour lutter ici en Suisse contre la malbouffe? C'est pas très helvétique ça, mais enfin, est-ce qu'on pourrait envisager ce genre d'action coup de poing?
Oui, on pourrait, et puis c'est même quelque chose de très réaliste, puisque l'année prochaine, on va s'engager dans un projet sur une semaine pour motiver les Suisses à bouger, puis on aimerait bien que notre directeur participe aussi, voire des parlementaires, donc on est en train de créer des idées, mais l'objectif c'est justement de donner ces exemples et puis donner l'envie à la population de bouger ou de bien manger, mais dans un esprit de ludique, quoi, de plaisir et pas de contraintes, de devoirs, d'imposition. C'est vraiment le plaisir dans le choix qu'on fait par rapport à l'activité physique ou l'alimentation.
Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le public ? Madame.
Merci. C'est un petit peu plus des remarques qu'une question précise, mais moi, ça a soulevé pas mal d'interrogations. Chez moi, je suis étudiante en anthropologie et psychologie de l'éducation. En fait, je suis complètement obsédée par le rapport de l'être humain à l'alimentation. Et en fait, bah, déjà au niveau de... Je crois que c'est vous qui avez parlé d'un marketing de santé. Et puis, ça m'interpelle un petit peu parce que pour moi, le marketing, ça vise quand même un petit peu à terme à accroître constamment un certain type de consommation ou de profit. Et puis, la santé, bah, c'est quand même un équilibre. Donc ça, c'est une première chose que je voulais dire, mais je vais aller un peu rapidement parce qu'il y en a d'autres. Ensuite, au niveau de... Enfin, je sentais une petite tension entre Madame Mokhli et puis Monsieur Marcacci par rapport à la manière dont on peut résoudre un petit peu ces problèmes-là. Enfin, vous êtes un peu plus du côté, c'est nous-mêmes en tant qu'individus qui devons un petit peu changer. Enfin, non, pardon, vous qui devons un petit peu changer ça. Enfin, notion de responsabilité individuelle quelque part. Et moi, bah. Je suis végétalienne depuis plus d'un an, à part le fait que je me complémente en B12 d'une autre manière, mais je ne vais pas aller dans les détails. Typiquement, un régime végétalien, un régime végétarien peut très bien fonctionner pour les individus qui sont en bonne santé dès le moment où en fait, ils ont les compléments nécessaires. Et est-ce qu'on peut parler vraiment de liberté individuelle et de choix quand il y a une désinformation aussi importante que ça? Pour moi, c'est très galère d'aller à la COP à la Migros, j'y vais plus, en fait. Mais les rares fois où je suis obligée d'y aller, je dois passer vraiment un bon moment. Enfin, au début, maintenant, ça va mieux parce que je suis habituée, je sais quel produit je peux prendre. Mais je passais des heures et des heures. J'ai un petit bouquin qui s'appelle d'ailleurs « Additifs alimentaires » de Corinne Gouget, que je trimballe parfois avec moi. Parce qu'il y a des additifs alimentaires partout. Pour en citer qu'un seul, parce que je ne veux pas monopoliser non plus, le glutamate monosodique E621, qui se retrouve sous plein de formes différentes, il y en a partout. C'est quelque chose qui, chimiquement, induit un effet physiologique. Et je ne suis pas vraiment d'accord avec le fait qu'on puisse parler de choix individuels quand on est manipulé à ce point, physiquement et psychologiquement. Et à ce niveau-là, moi, je suis partisane de la responsabilité, de l'autogestion, mais je pense que l'autogestion, il faut lui donner les moyens de se développer, et que s'il n'y a pas des mesures sociales qui vont dans ce sens-là, eh ben, on va droit dans le mur. Donc ces mesures sociales, il faut évidemment qu'elles soient portées quelque part par les individus, mais si on se fait tout le temps mettre des bâtons dans les roues par ces multinationales, bah, ça ne va pas aller. Et puis... Et puis voilà, je crois que c'est tout.
C'est déjà pas mal. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Alors justement, est-ce qu'on a le choix ? Est-ce qu'on a le choix ? C'est un peu la question que posait Madame Alberto Marcacci. Une réaction ?
En fait, je partage votre avis. Ce que je voulais dire quand je parle de choix individuel, c'est qu'au fond, à la fin, c'est nous qu'on achète ça. Mais ce geste, il est influencé par beaucoup de facteurs. L'environnement, l'éducation et tout ça. Donc, moi, je suis pour la responsabilité individuelle et la responsabilité sociétale qui intervient sur les contextes de vie, qui modifie ce contexte de vie pour faciliter le choix. Et puis, donc, à la fin, c'est un jeu entre les deux. C'est le jeu entre la responsabilité individuelle et la responsabilité des institutions pour faire en sorte que ce choix soit le choix le plus favorable à la santé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur l'information, vous avez complètement raison, il y a une désinformation, il y a des caisses maladies, les entreprises, nous, d'autres institutions qui donnent des messages de santé. Pour finir, on ne sait plus à quel message... il n'y a plus de message de référence et donc on se perd un peu dans toute cette question. C'est aussi pour ça que dans notre politique, c'est aussi la stratégie santé 2020 du Conseil fédéral, on a mis au centre justement cette information destinée à l'individu. On parle d'empowerment, de littératie, enfin on peut utiliser tous les termes qu'on veut, mais c'est vraiment un des objectifs, c'est de donner une information qui soit claire, transparente et univoque. Puis sur la question du santé, la santé, c'est un état d'équilibre. Moi, je suis sûr, pour moi, la santé, c'est quelque chose de complètement évolutif. C'est-à-dire qu'on a une réserve qui est extrêmement importante par rapport à notre santé, on utilise très très peu. Donc, notre niveau de santé peut accroître, malgré aussi la dégradation due à l'âge, mais aussi un certain âge avancé, on peut garder cet état de santé. Donc, c'est quelque chose d'évolutif et ça dépend aussi de notre comportement. Mais bien sûr, là aussi, encore une fois, ce comportement, il est en lien avec les structures qu'on met en place.
Et voilà. Valérie Besançon, terminez seulement. Je vous ai interrompu.
Non, dans le sens que je partage aussi ce que ma voisine a dit. Dans le sens, c'est vrai, l'impact, il est bien réel et tout, mais je pense qu'on a la liberté. On a la liberté de choisir. On n'est pas aussi conditionné par rapport aux produits que vous avez dit. Ça, il y a des lois qui règlent justement l'utilisation des additifs et tous ces éléments. Mais je crois qu'on a la liberté. C'est vraiment de quelle manière on peut l'exprimer, de quelle manière on est induit à l'exprimer, cette liberté.
Combien de gens ici, par exemple, savent que les produits laitiers contiennent des opiacés, qui s'appellent la caséine, et que si, par exemple, on veut arrêter d'en consommer, eh ben, on a une période de sevrage et c'est quelque chose qui a une influence directe sur notre organisme. Pour moi, alors il y a le choix, mais c'est des choix qui sont quelque part biaisés et puis qui perdent en force parce qu'on les laisse pas en fait se développer, on laisse pas la réflexion aux gens. Et typiquement, il y a la FDA aux États-Unis qui a enfin commencé à dire qu'on pouvait tout à fait s'alimenter, par exemple, sans manger de viande. Ça fait des années qu'on fait un lien entre le fait... je pense que vous avez lu le rapport Campbell, ou certains d'entre vous, qui est un homme qui a étudié sur, je crois, à peu près 20 ans, la relation entre l'alimentation et la santé, sur plus de, si je ne m'abuse, 347 variables... Enfin, bref, 300 et quelques variables... Il y a eu 300 et quelques variables qui ont été trouvées, corrélation entre l'alimentation, la consommation carnée et la consommation lactée, et la santé. Est-ce que ce rapport a été divulgué ? Est-ce que les gens sont au courant ? Moi, j'ai des personnes de ma famille, en fait, ça me touche beaucoup, qui sont mortes parce qu'elles ont été atteintes par ce qu'on appelle les maladies de civilisation, qui sont induites par une surconsommation de produits animaux. Et qu'est-ce que fait le marketing ? Il continue à promouvoir ces produits-là. Donc, c'est à ce niveau-là que je m'interroge. Mais après, oui, on a le choix, mais ce choix est extrêmement limité, bridé, canalisé, et les acteurs sociaux les plus puissants, donc je pense au FMN, font tout pour limiter ces choix. C'est ça qui est peut-être dommage.
Alors, merci beaucoup pour ces informations. Juste peut-être une réaction de Valérie Besançon, puis ensuite on donnera la parole à d'autres personnes aussi pour d'autres questions.
Ouais, juste pour rebondir sur cette question du choix, pour moi, c'est évident que le consommateur a le choix, mais parmi un ensemble de possibilités données. Et cet ensemble de possibilités données, il n'est pas défini par le consommateur, en tout cas peu défini par le consommateur, mais par les régulations, par l'État, par le contexte économique, par la concurrence qu'il y a économique dans un pays. Par exemple, un consommateur en Suisse, il a, je ne me rappelle plus du chiffre, mais d'un ordre de grandeur, 5 fois moins de choix de produits dans un rayon de 20 km qu'un consommateur en France, parce qu'on a une concentration de notre marché de la distribution. Donc, évidemment que la possibilité qu'on a pour faire son choix, elle n'est pas complètement dépendante du consommateur. C'est...
D'autres questions ? Posez volontiers votre question, et puis tout à l'heure. Vous avez la voix qui porte, alors je pense que vous pourrez vous dispenser de micro, quoique.
Je ne crois pas avoir entendu parler des différences sociales. On a parlé beaucoup de marketing chez un peu tout le monde, mais il y a quand même des différences sociales très importantes. Moi, je suis médecin scolaire. On voit que les enfants obèses, c'est malheureusement dans les filières qui sont moins réputées, disons, qu'on les voit beaucoup plus. Et puis, il y a une composante sociale très, très importante. Et je ne sais pas si le marketing, comment la composante de marketing s'attaque à ça. Et puis aussi, quels facteurs sont des facteurs qui sont ensemble. Quand on parle de publicité à la télévision, ben, les enfants qui regardent beaucoup la télévision, qui regarderont beaucoup de publicité pour des aliments non sains, c'est aussi des enfants qui bougent peu à cause de ça. Donc il y a plusieurs choses ensemble, mais surtout cet aspect social qui me touche beaucoup.
Oui, vous avez parfaitement raison. Les dernières enquêtes suisses sur la santé ont bien mis en évidence cette différence, surtout chez les enfants, par rapport au statut socio-économique des parents, mais aussi la provenance, donc la nationalité des enfants. Je ne sais plus qu'est-ce que je voulais dire, mais par rapport à la publicité, je ne sais pas si vous avez vu la dernière publicité d'une batterie, de Duracell. Elle est pas mal, puisque justement, ça montre un enfant devant la télévision. Et puis, le message, c'est... je ne sais plus exactement, mais ça incite l'enfant à sortir. Et puis, on voit l'enfant qui part de son poste devant la télévision, puis sort à l'extérieur pour jouer avec quelque chose. C'est un lien avec un appareil, probablement, puisqu'on avait besoin de cette batterie. Donc là, c'est un autre exemple de comment on peut utiliser la publicité pour véhiculer un message positif. C'est... voilà, être devant la télévision, c'est pas bien, donc il faut sortir pour bouger. Mais l'aspect de, je sais pas, j'ai fait un petit détour, mais l'aspect du statut socio-économique, c'est ce qu'on voit aussi dans les statistiques par rapport à l'obésité et le surpoids chez l'adulte. Et là, c'est des indications qui permettent de cibler justement des interventions, notamment par rapport aux recommandations en matière d'activité physique ou de nutrition qui ont été traduites en plusieurs langues justement pour rendre accessible l'information aussi à des personnes qui n'ont pas une connaissance de l'italien ou du français, en tout cas des langues nationales. Et il y a des interventions ciblées justement pour ces groupes vulnérables, on peut les appeler, mais ces groupes cibles, pour justement donner de l'information, que ça soit compréhensible à tout le monde.
Oui, pour en revenir justement à cette différence sociale, moi je le vois beaucoup avec les filles que je soutiens par Miss Ronde et par toutes les personnes à qui je suis confrontée régulièrement. Le marketing répond à un besoin. Les personnes qui vont beaucoup regarder la télévision sont souvent des gens qui sont inactives, qui vont du coup être bombardées de ces messages. Tu te sens seule, tu es seule. Je te donne plein de solutions et je te bombarde de ces solutions. C'est là que c'est vicieux. C'est que ces personnes justement qui sont dans ces cas de solitude, souvent qui vont se sentir abandonnées aussi parce que si on est seul, c'est qu'on n'est pas soutenu, qu'on soit adulte ou enfant. Là, je parle vraiment de beaucoup de monde. Je suis peut-être aussi en marge de la société. Et là, dans ma solitude, la télévision vient me rejoindre, vient me tenir compagnie et vient me donner plein de petites solutions qui semblent magiques. Et c'est là où c'est terriblement vicieux. Moi, je pense qu'il y a, en matière d'éducation, vraiment d'aller rejoindre les gens, pas seulement de créer un message positif par rapport à des produits positifs, mais aussi de comprendre où sont le mal-être, de donner des plateformes. Je sais qu'il y en a beaucoup qui existent, où il y a des solutions qui existent pour sortir de chez soi, pour faire des choses, pour aller à la rencontre des gens. Mais est-ce qu'on donne vraiment l'envie à ces personnes de sortir et d'aller se confronter à des gens, parce que les gens ont peur de se confronter aux autres. Et il faut trouver une solution, je ne sais pas laquelle, parce que finalement, on met plein de solutions. Les gouvernements font aussi régulièrement des choses. Hein. Je ne suis pas pour dire que le gouvernement est pourri et que méchant. Il y a vraiment des choses qui se font et qui existent. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, on aille vraiment comprendre la clé du problème et de la solitude chez ces gens et qu'on les rejoigne vraiment là où ils sont. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire encore et à apprendre.
Monsieur, vous aviez une question ?
Alors oui, moi je voulais surtout réagir par rapport à un vécu personnel que je me suis rendu compte, moi j'ai l'occasion de pas mal bouger en train, dans les transports en commun, ainsi de suite, et j'ai remarqué que quand j'ai eu un petit creux ou une faim, j'ai toujours été confronté à des vendeurs qui me vendaient plutôt des éléments plutôt malbouffe. McDo, bien des pretzels, des choses comme ça qui passent assez rapidement. Et j'ai été assez difficilement en contact avec des lieux où je pouvais venir puis me dire, bon, bah, maintenant, j'aimerais manger une salade. Ou bien je devais vraiment aller chercher ces éléments-là. Et de là découle une question, c'est de me dire, est-ce qu'il y a une possibilité justement de réguler ces éléments-là où on pourrait dire, bon, ben alors c'est, on n'a pas le droit, on n'aurait pas le droit d'avoir, je sais pas, comme on aurait à Lausanne, trois McDo au centre-ville, et obliger ces enseignes à un peu plus se dispatcher, puis laisser la place à d'autres enseignes qui seraient un peu plus saines. C'est un peu une question que j'ai envie de...
Alors, on revient à la question de la réglementation. Hein,
alors,
une fois.
Là, je pense qu'en effet, la réglementation a quelque chose à faire. J'ai été profondément choquée en tant que lausannoise. Sur une seule rue, entre la place Chaudron et le pont Bel Air, il y a actuellement 3 fast-food, 2 boulangeries, un bar à sushi, un bar à produits ultra-protéinés pour les grands sportifs et autres, m'as-tu vu, et un seul bar à jus de fruits. Et ça m'a absolument choquée. En plein centre-ville, là où tout le monde vient prendre sa pause. Et là, je pense que vraiment, il y a des réglementations à faire aussi au niveau des échoppes et compagnie. Quelles autorisations on donne à qui ?
D'autres questions ? Madame.
J'aimerais juste réagir. Donc, je suis diététicienne, je travaille tous les jours avec des gens qui ont des problèmes de poids et de comportement alimentaire. Puis, il me semble qu'il y a une idée reçue qui est très largement répandue puis que je retrouve un petit peu en filigrane ce soir. C'est un peu la croyance qu'il suffit de manger sain pour ne pas avoir de problème de poids. Donc en fait, c'est vraiment deux choses qui sont différentes. Et puis chez les gens qui ont des problématiques de poids, ben, c'est une problématique d'ajustement de la dépense énergétique par rapport à l'apport énergétique. Et je trouve que ce message qui est largement répandu, il est très culpabilisant pour les gens qui ont des problèmes de poids. Si c'était si simple, ça se saurait, on n'aurait pas tous ces questionnements autour de la problématique de poids. Puis ça, je pense qu'il faut vraiment être prudent au niveau du marketing, justement parce que cette notion, elle est extrêmement véhiculée. Puis il me semble que ce soir, on l'a aussi encore beaucoup encouragée. C'est pas juste, il ne suffit pas de manger sain pour ne pas avoir de problème de poids. Voilà, donc vous y avez fait allusion avant, hein. vous avez parlé de comportement alimentaire, effectivement.
Madame Fenniguet.
Et puis ça, je pense que c'est un message où il ne faut pas trop culpabiliser. Non plus, il est très culpabilisant, ce message, je trouve.
Juste pour compléter, il faut bien faire la différence entre le marketing qui concerne les entreprises, les choses qu'on veut et qu'on ne veut pas, et le comportement des individus. Parce que jamais il faut dire à quelqu'un « mange ceci et pas ça ». C'est pas de ça qu'on parle, mais de la promotion de la part des entreprises. Je pense qu'il faut vraiment faire la différence parce que l'entreprise, son marketing, dit mange davantage de ceci, mange-en beaucoup. D'accord. Mais l'individu, en fait, la personne, quand on parle à une personne en face, on parle jamais de ça. Je crois que c'est vraiment
Il y a un discours ambiant qui dit il suffit de manger sain pour ne pas.
Ouais. Et juste un. Absolument.
Même des fois de la santé publique, même. Hein,
il s'agit plus d'accessibilité, en fait, de pouvoir choisir. Pour nous, en tout cas, la Fédération romande des consommateurs, c'est important d'avoir le choix, d'avoir la capacité de choisir et d'avoir le choix à disposition. Je crois que c'est ça, de reprendre le pouvoir de son panier de commission et de son assiette. Je crois que c'est...
D'ailleurs, je vous rappelle qu'il y a des brochures ce soir dans la salle. Monsieur Marcacci.
Vous avez parfaitement raison. C'est vrai que dans ce type de table ronde, quand on parle de marketing, on monopolise la discussion sur l'alimentation. Et puis, il y a l'autre aspect extrêmement important, que c'est l'activité physique, voire peut-être plus important, parce qu'avec l'activité physique, on arrive aussi à réguler toute la question de faim, ou réguler au niveau physiologique aussi par rapport aux besoins et aux apports. Et c'est vrai que c'est dommage qu'on le met un peu de côté, l'activité physique. Au niveau international, c'est ce qu'on a fait depuis longtemps par rapport aux grandes stratégies où on a beaucoup fait des stratégies pour réglementer ou pour conseiller par rapport à l'alimentation. Et l'activité physique a toujours été mise dans quelques articles, la deuxième, troisième page, mais ça n'a jamais été mis en avant. Maintenant, avec l'OMS, après la déclaration de Vienne, c'est une rencontre des différentes instances, des ministères, on a décidé vraiment de sortir l'activité physique et de créer une stratégie européenne pour l'activité physique, indépendamment de l'alimentation. Et ça, justement, pour valoriser cet aspect et pour avoir deux stratégies au niveau européen qui permettent justement de donner des indications aux États membres, aux gouvernements, par rapport à des interventions dans les deux secteurs. Donc, c'est dernièrement qu'on a commencé à vraiment sortir l'activité physique de l'alimentation et avoir deux stratégies au même niveau.
Et puis l'activité physique, ça s'inscrit aussi au quotidien. J'ai des collègues que j'admire beaucoup qui prennent systématiquement les escaliers. Exactement. Plutôt que l'ascenseur. Ça, c'est un comportement encouragé.
Continuez, je voulais juste dire une petite chose par rapport aux études. Vous l'avez mentionné, si on regarde les études scientifiques par rapport à l'obésité, je n'ai trouvé très très peu qui s'intéressent aux personnes qui sont touchées par l'obésité ou surpoids. Pour comprendre aussi quels sont les mécanismes, les barrières au changement, on connaît parfaitement tous les mécanismes physiologiques, voire peut-être génétiques, les déterminants et tout ça, mais au fait, il y en a très peu qui s'intéressent aux personnes qui sont touchées. Et puis, en discutant avec ces personnes, on a pratiquement les solutions. Et c'est ça qui est frustrant, c'est-à-dire qu'on investit tellement dans les recherches, mais on ne s'intéresse pas aux personnes qui sont touchées. Et peut-être là, c'est aussi un potentiel à utiliser, et c'est peut-être là qu'il y a encore des jolies découvertes à faire par rapport à quel type d'intervention on peut faire pour être encore plus efficace dans cette lutte contre l'obésité.
Madame a une question.
C'est peut-être juste de la curiosité, mais par rapport au concours de Miss Ronde, vous avez dit recevoir des bons messages et aussi des mauvais. Et je me demandais quelle était l'image négative qui véhiculait chez certaines personnes par rapport à votre concours.
Alors, bon, il y a les messages qu'on a reçus suite au reportage, et puis il y a les messages négatifs qu'on reçoit, rares, mais en général. C'est simplement des personnes pour qui je dois dire que j'ai de la compassion et pas de colère, qui nous attaquent très ouvertement, ne comprenant pas comment on peut se laisser aller à ce point. Et pour moi, c'est de l'ignorance complète, parce qu'une ronde, alors oui, c'est vrai, il existe des cas de gens qui se laissent complètement aller, qui démissionnent de leur propre vie, qui passent leur temps devant la télévision à manger des chips. Mais ces personnes-là, de toutes les personnes rondes que je connais de manière internationale, parce qu'en tant que présidente, j'en fréquente beaucoup, je n'en connais pas. Je connais des personnes qui, oui, ont un peu démissionné de leur vie parce que face à leurs difficultés personnelles, mais des personnes qui se laissent complètement aller en ne faisant rien du tout, en ne faisant aucun effort pour leur santé, que ce soit au niveau de l'activité physique ou de l'alimentation, je ne connais personne. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de regards très méchants. Et pour moi, ces personnes qui ont des regards méchants sont certainement... Je le dis bien certainement parce que je ne vois pas comment discuter avec quelqu'un qui n'accepte pas le dialogue. Sont certainement des personnes qui se sentent extrêmement mal dans leur peau de mince, pour qui rester mince et en santé, en forme, a toujours été un combat, et qui du coup ne peuvent même pas entendre ou comprendre que quelqu'un puisse s'accepter avec un corps qui est différent de le leur. On n'est pas là pour prôner l'obésité, vraiment pas. On est là pour dire ces personnes que la société stéréotype comme étant des personnes en marge, qui ne prennent pas soin d'elles, etc., sont belles, ont de la valeur. Et c'est pour ça qu'on est là. Après, lier les réponses négatives, pour finir ce que vous avez demandé, lié au reportage, je l'ai dit en tout début, c'était plus que le reportage a beaucoup axé sur la souffrance de ces filles et pas tellement sur le côté heureux et joyeux. Mais j'espère qu'on aura d'autres occasions cette année de faire grandir le concours et d'avoir plus de moments ouverts au public, que vous veniez entendre nos fous rires, parce que c'est sonore et ça vaut la peine.
Alors, on a un petit peu dépassé l'heure, mais je pense qu'on peut encore poser quelques questions. Mais évidemment, si vous en avez, n'hésitez pas. Surtout, n'hésitez pas.
J'aurais une question par rapport à l'activité physique, parce que en fait, je fais de la recherche dans ce domaine-là. Alors, sur quoi est-ce qu'il faudrait mettre le plus d'efforts, le plus de moyens? Quel type d'activité physique pourrait procurer, disons, le plus de résultats dans la population, si on arrivait à augmenter, disons, la part de gens qui s'y adonnent?
Y a-t-il un spécialiste de sport à la table?
L'idéal, en tout cas, ce qu'on prône, c'est l'activité physique au quotidien. Il y a maintenant de plus en plus des études qui montrent que même le fait d'être actif, et si on prend la définition du fait d'être actif, donc c'est les 150 minutes d'activité physique modérée par semaine qui peuvent être concentrées sur un jour, aux 75 minutes d'activité physique vigoureuse, là aussi qui peuvent être concentrées sur un jour. Donc si on a atteint ces deux limites, on est considéré comme actif, mais je peux atteindre justement ces limites le samedi, puis je reste tout le reste de la semaine assis devant mon ordinateur, ce que je fais de plus en plus. Donc je suis un actif sédentaire. Et des études, ils ont pu montrer que ce type de comportement a un impact sur la santé, notamment sur certains cancers, sur certains maladies cardiovasculaires, au point que maintenant on a divisé les deux choses, et puis la sédentarité est considérée comme un facteur de risque au même titre que le tabagisme ou la consommation abusive d'alcool ou le surpoids, l'obésité. Donc quel type d'activité physique? C'est avoir un style de vie actif, c'est-à-dire que, vous l'avez mentionné, faire les escaliers tous les jours, descendre un arrêt avant son but, aller faire les commissions en pied, enfin vraiment avoir une activité physique régulière qui est intégrée dans sa quotidiennité, et en complément de ça, avoir une activité qui est plus organisée, donc type sportive. Ça peut être du jogging, ça peut être d'autres, du vélo, de la natation et comme ça. Mais ce qui marche bien, qui a déjà un impact sur la santé, c'est vraiment ce changement de comportement quotidien. C'est ça qui imprime déjà un certain changement. Et après, bon, voilà, si on veut accélérer, on peut la physiologie ou la combustion des graisses, c'est tous les sports d'endurance qui permettent justement de brûler les graisses, comme on dit dans le jargon. Notamment la natation et le vélo, c'est deux activités de choix.
Le ski de fond, c'est bien aussi, mais il n'y a pas encore de neige. On est un peu embêté.
Moi, je voulais juste compléter, que ce soit par rapport à l'activité physique ou par rapport à l'alimentation dont on a beaucoup parlé ce soir. Je crois que le message, c'est que ça ne doit pas être la corvée ou la punition de la semaine, je vais faire mes X minutes d'activité physique, mais d'essayer d'intégrer ça au quotidien, puis de se faire plaisir. Je crois que c'est vraiment important aussi pour les deux sujets d'axer sur cet élément-là.
Donnez-nous des pistes cyclables.
Par exemple.
Et surtout, ne pas culpabiliser, quelqu'un parlait de la culpabilité, ne pas culpabiliser les personnes qui se sont un certain temps laissées aller pour différentes raisons, ne pas les culpabiliser, mais de venir les rejoindre et leur dire « tu as la possibilité de changer ta vie. Les clés sont dans tes mains, il y a des choses, prends acte de ça et mets-toi en mouvement. » Mais la culpabilité est terrible. Vraiment. J'avais entendu parler d'une étude qui a été très, très sympathique, je trouve. Un couple à table, monsieur et madame ont exactement la même chose dans leurs assiettes. On provoque une dispute. Madame ne va plus rien manger parce que de frustration, elle va se bloquer. Monsieur va finir son assiette. C'est madame qui va prendre du poids. La culpabilité et la frustration font prendre du poids sans rien manger.
J'espère J'espère que ce n'est pas les applaudissements finaux, parce qu'il doit être plus nourri que ça. Encore une ou deux questions, peut-être ? Monsieur ? Une question, peut-être ?
À propos de l'Australie, par exemple, si vous connaissez les aborigènes, ils vivent par groupe d'une trentaine, comme ça, et c'est un chef qui les dirige. Ils passent la journée à l'ombre d'un arbre, ils se déplacent plutôt le soir, ils n'ont pas besoin de faire des cultures, parce que le bon Dieu leur apporte les fruits, tout ce dont ils ont besoin. Quand ils ont faim, ils chassent un kangourou. Et vous ne trouvez pas d'aborigènes obèses parmi ceux qui vivent normalement dans le désert. Ceux que vous connaissez comme aborigènes obèses, c'est ceux qui se sont sédentarisés, qui sont subventionnés par l'État, qui ont des postes au guichet des billets, etc. Alors, ils prennent effectivement du poids et ils boivent, etc., n'est-ce pas ? De même pour le Coca-Cola, tout est une question de mesure, n'est-ce pas ? Par exemple, pour un bébé qui a une gastro-entérite, qui vomit et qui a des diarrhées, avec le Coca-Cola ou le Pepsi-Cola par petite cuillère froid, vous pouvez sauver un enfant comme ça, sans infusion, n'est-ce pas ? Moi, j'en ai eu plusieurs comme ça, que j'ai tiré d'affaire sans avoir besoin d'infusion. Donc, tout est une question de... C'est un médicament, le Coca-Cola. Hein, c'est que ça contient le potassium qu'il faut, etc. Enfin, c'est pas mal du tout. Mais c'est une question de dosage, hein, de le prendre ou de ne pas le prendre. Hein.
Je vous remercie, monsieur. Je suis content. Vous avez en plus entendu mon appel sur l'Australie. Alors c'est parfait. Qui d'autre ? Ben voilà, je vous remercie beaucoup à vous, public, et puis surtout à vous, intervenants, pour cette soirée. Et je pense qu'on peut les applaudir très fort. Ouais. Puis n'oubliez pas, il faut vider le stock de café qui se trouve juste à l'extérieur. Bonne fin de soirée, merci.
Encore un petit mot. Juste un petit mot pour vous remercier de votre fidélité et vous dire que c'est le dernier café scientifique de l'année. On remercie Vincent Costet pour cette animation. On remercie les intervenants de leur venue. Et je vous donne rendez-vous le 14 janvier, ici même, pour célébrer les 10 ans déjà 10 ans, des cafés scientifiques neuchâtelois. Faites-le savoir. Faites-le savoir. Autour de vous, vous avez les programmes qui sont distribués avec la petite étiquette 10 ans. Emportez-les chez vous. Et rendez-vous ici pour une discussion plutôt politique et culturelle sur la place des États-Unis dans le monde. La réalité du rêve américain. Voilà, bonne année à vous et à janvier.